France Musique.
Merci Lionel Esparza.
Merci Lionel, et à demain en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage nocturne. France Musique.
Nous accueillerons dans ce tapage nocturne Daniel D'Adamo, dont le parcours se confond avec sa quête de langage, de voix nouvelle. Il viendra nous parler de son itinéraire et de son opéra Kamchatka, fable politique qui nous replonge dans une sombre Argentine. Mais ouvrons cette émission avec quelques pépites discographiques et notamment une Madeleine, celle proposée par David Shea en 1996. Le label Sub Rosa a publié alors The Tower of Mirrors d'après un recueil de 24 nouvelles taoïstes. Shea élabore avec minutie la rencontre entre échantillonneur et instrument. Il y développe un langage qui repose sur des collages certes, mais qui induit également une écriture virtuose pour les instruments acoustiques qui questionnent et se questionnent avant de se métamorphoser en structure narrative. On y retrouve Eric Friedlander au violoncelle, Dave Douglas à la trompette et David Morley au synthétiseur.
Thank you.
Rock'n'Jad, Four Directions Battle de David Shea, extrait de l'enregistrement Tower of Mirrors, paru sur le label Sub Rosa, il y a plus de 20 ans, en 1996.
France Musique.
François, vous nous venez avec une nouveauté discographique.
Oui Bruno, je vous propose d'écouter une rareté que l'on doit à l'artiste japonaise Few et qui s'intitule Jamming. Rareté car le disque n'a été distribué qu'à l'occasion de son New World Tour. Derrière Few se cache Hiromi Moritani, figure incontournable de la scène alternative Tokyo Heat. Dans les années 80, elle fonde le groupe punk Hans Sally, tout en collaborant avec Ryuichi Sakamoto et en créant son premier album Few avec Holger Kshukai et Jackie Lipzeit de Cannes. Mais revenons en 2016 avec ce disque Jamming, qui comme son nom l'indique, est une proposition spontanée où Few improvise deux longues séquences musicales, développant une électronique hypnotique qui ne se départit jamais d'une tension sombre et sous-jacente. Few, Jamming.
Thank you.
écouter un extrait de l'album Jamming de la musicienne japonaise Fiu.
France Musique.
Daniel D'Adamo a esquissé un itinéraire de compositeur, fait de contours, de détours et de chausse-trappes, qui font qu'il n'est jamais là où on l'attend. Cultivant avec dextérité cette surprise, cette prise au dépourvu, il joue avec les mots comme avec les sons, les timbres et les pulsations. Son dernier opus est opératique et repose sur une fable politique qui lui est proche dans une Argentine sombre et chaotique. Daniel D'Adamo est l'invité de ce tapage nocturne.
Les bataillons rentrent au camp avec une démarche bizarre, avancent en rang par cinq. Presque rigide, le cou tendu, les bras au corps, comme des hommes faits de bois. La musique soulève des dizaines de milliers de jambes, contractant les corps comme ceux d'automates. Un chef, des exécutants, des obéissants, telle est la structure que son exécution aussitôt met en place. Cadence et mesure, la marche est cadencée, les coups de matraque sont cadencés, les saluts sont cadencés. Elle est devenue incessante, agressant de nuit comme de jour, dans les rues marchandes, dans les galeries, dans les grands magasins, dans les librairies, même dans les piscines, même sur le bord des plages, dans les appartements, dans les restaurants, dans les taxis, dans le métro, dans les aéroports, même dans les avions au moment du décollage et de l'atterrissage, même dans les camps de la mort. La première fonction, du moins la plus quotidienne des fonctions assignées à la musique de la Lagerkapelle, consista à rythmer le départ et le retour des commandos. La musique se tient déjà tout entière dans le coup de sifflet du SS. À chaque fois, elle fait mettre debout. Comment pourrez-vous entendre la musique, n'importe quelle musique, sans lui obéir? Elle est le seul art qui puisse s'arranger de l'organisation des camps, de la faim, de l'humiliation, du travail, de la douleur et de la mort.
Bruno Le Thor et François Bonnet, tapage nocturne. France Musique.
Daniel D'Adamo, bonsoir. Votre itinéraire vous emmène du dodécaphonisme à l'improvisation, en passant par l'électronique et la rencontre entre musique et littérature. Que représentent pour vous toutes ces voix ?
Ce ne sont pas toutes des voix qu'on choisit dans un parcours. Et en tout cas, c'est mon cas. Je suis un immigrant aussi. Et même si ça fait 25 ans que je suis là, à une époque, il fallait s'y installer, il fallait se construire, il fallait se faire une place, sans jouer des coudes, en fait, une place qui vous corresponde, en fait, avec une place, un espace qui corresponde à vos attentes. Et en fait, ça m'est amené effectivement par travailler avec des chercheurs en sciences cognitives composer effectivement avec des textes littéraires. Je fais une pièce pour chœur, pour le cri des Paris, où les textes, ce sont des lettres, des dépêches de l'AFP et des lettres de la bureaucratie, en fait. Donc, vous voyez, ce n'est pas très littéraire.
Alors justement, parlons un peu de vos racines. On retrouve dans votre œuvre certains éléments de votre racine. Je pense notamment au Tango des Tangos, une œuvre de 2015, ou bien sûr les textes de Borges mis en musique. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez cet attachement à votre terre natale?
Très récemment, j'ai compris, mais très récemment, ça veut dire il y a quelques jours, que les Argentins, en fait, ce sont des surréalistes et rationnels. C'est tout à fait le contraire d'un réalisme magique. L'Argentin, il vit dans une espèce de surréalisme qu'il explique d'une manière absolument rationnelle. Il est totalement convaincu de ce qu'il invente. Et puis c'est souvent difficile de le sortir de ce monde un peu surréaliste dans lequel il se met. Et moi, je pense que c'est le cas, par exemple, de Borges, qui pouvait expliquer l'invention la plus étrange, la plus sophistiquée. Et en la référençant avec des références, avec des citations, avec un cadre historique déterminé, alors qu'il ne s'agissait que d'une invention totale, en fait. Moi, je me retrouve un peu dans cette chose, un peu dans les marges qui sont les Argentins. Et on est un peu dans les marges, un peu dans les marges du monde, tout en ayant été au contact des cultures européennes, mais aussi des cultures locales, il ne faut pas les oublier, on a été mis un petit peu en observateur. L'Argentin est une sorte d'observateur qui a très très envie de participer au monde et qui en fait il se trouve à 13 000 kilomètres de là où les choses se passent, quoi, tout simplement. Et je pense que cela le pousse à une forme d'imaginaire surréaliste, et qu'il soit en littérature, en musique ou autre. Et c'est vraiment ma dernière explication, c'est ma dernière théorie pour essayer d'expliquer un peu ce que c'est que ces Argentins qui imaginent beaucoup de choses et qui se manifestent en beaucoup en plein d'art. Et parfois avec beaucoup de succès. J'ai cité Borges, mais on peut citer des tas d'autres écrivains qui vont de Cortázar à Copy, il y a des tas d'autres.
Il y a José Muñoz qui disait dans un de ses ouvrages qu'il expliquait ce surréalisme argentin. C'était lié pour lui à la pampa et c'était lié notamment au vertige horizontal.
c'est totalement du surréalisme et rationnel. C'est exactement ce que je viens de dire. On peut expliquer, vous voyez, on vient d'expliquer un phénomène d'une manière totalement qui tient la route en fait, mais qui est une pure invention.
Vous composez également des œuvres électroacoustiques. Comment abordez-vous ce type de composition ?
C'est un vrai moyen d'expression musicale. Et ça permet d'autres choses que ce que les instruments ou les voix permettent. Et quand je dis permet, je pense vraiment à la permission de l'imagination, les ressources pour l'imagination. C'est à ça que je pense, ce qui est tellement important à l'heure de s'asseoir et travailler. J'avais fait quelques pièces électroacoustiques, j'avais été formé un peu dans la musique mixte à Lyon, au conservatoire de Lyon, et j'avais abandonné pendant un certain temps l'électroacoustique, et je me suis remis il y a quelques années au contact de Césarée, un centre national de création musicale à Reims. Et en fait, j'ai repris le goût, j'ai complètement changé la manière de travailler, toujours partant vraiment de l'écriture sur papier, on va dire. Et je travaille beaucoup à partir de l'enregistrement d'un premier grand G d'une partition. Je fais essentiellement des pièces mixtes, même si j'ai fait une pièce acousmatique, ou électroacoustique, on va dire. J'ai fait essentiellement des pièces mixtes. Et essentiellement, je travaille à partir de l'enregistrement d'un premier G sous forme de partition, et que j'enregistre en studio pour élargir ces sonorités qui viennent du monde réel, qui viennent d'une harpe, qui viennent d'une voix ou d'un instrument, d'une flûte, peu importe. Et je donne à ces instruments, ces voix, je donne d'autres dimensions, des dimensions qu'elles n'ont pas forcément naturellement. Et même avec les techniques élargies, les modes de jeu, on va dire, des techniques de jeu élargies, j'utilise l'électronique pour vraiment ouvrir le champ des possibilités vocales ou instrumentales, et du coup musicales.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne. France Musique.
Dans Plier et déplier, vous avez expérimenté l'écriture à quatre mains. Finalement, c'est un phénomène assez rare. Comment s'est articulé le travail avec Thierry Blondeau ?
C'était une des plus belles expériences d'écriture que j'ai vécues. Et bon, c'est vrai qu'on compose en général tout seul. Et puis on vit tout seul ou parfois on a la chance de partager un processus d'écriture, de composition. Dans ce projet qui nous avait été proposé à l'époque par Damien Pousset, qui dirigeait la Biennale musique en scène de Lyon, il nous a proposé de réfléchir d'emblée à une pièce écrite à deux mains, on va dire. On nous a demandé, à Thierry Blondeau et à moi, qu'on avait travaillé quelques mois auparavant, on avait enseigné ensemble à Royaumonde. Et on avait vraiment sympathisé. Il y a eu un lien d'amitié qui s'est fait très très rapidement, d'une façon très simple. Et on s'est retrouvé à partager un projet, enfin ce qu'on a de plus intime, à partager un projet de composition. Et pour le quatuor Bella, qui est un quatuor absolument fantastique, qui structurait à Lyon, et pour lesquels j'écris un quintet, je vais écrire un quintet avec deux violoncelles, pour le quatuor Bella et Noémie Boutin. Et en fait, on s'est mis tout simplement à rêver ensemble, une ou deux fois, lors d'une ou deux rencontres. Et on a vraiment rêvé à voix haute de ce qui pouvait être une pièce pour quatuor à cordes qu'on allait se partager, qu'on allait s'échanger. Voilà, de l'échangisme, on allait faire de l'échangisme musical.
Quelles difficultés vous avez rencontrées ?
Aucune. On a rencontré aucune difficulté. On a composé, on a échangé, on a parlé, on a projeté des sonorités, des idées, et après chacun est allé chez soi travailler.
Est-ce que vous avez des esthétiques quand même très différentes ?
Très différentes. Mm-hmm. Et puis en fait, ce qui était extrêmement curieux, c'est que donc on a composé chacun chez soi. Quelques mois plus tard, on s'appelait, on discutait par téléphone, etc. On s'était revus une autre fois chez moi à Paris. Et quelques mois plus tard, on s'est retrouvés chez moi encore une fois, et avec toutes les partitions qu'on avait composées, et faire le montage de la pièce, voir quelle forme cela allait avoir. Et on s'est retrouvés que mes musiques et les siennes s'intercalaient parfaitement, qu'on partageait énormément de matériaux, énormément d'idées, énormément de gestes.
Oui, parce que c'était pas juste une sorte de succession de mouvements, c'était vraiment un mariage.
Une imbrication. Mm-hmm. C'était une véritable imbrication d'une heure pour quatuor à cordes et électronique. Donc il y avait une triple imbrication, si vous voulez. Et donc en plus, l'électronique, il était faite par une relecture électronique du quatuor à cordes. Et donc en fait, il y avait une triple lecture ou un triple travail. Et pourquoi tu raccordes. Et ça a finalement été un partage fructueux, un partage vraiment en profondeur, et puis qui nous a... on est toujours très très amis, on s'appelle très souvent, on se donne des nouvelles, et il y a eu un disque qui a été édité chez les éditions Cuicattle, qui a un petit peu figé, on va dire, ce partage.
Vous venez d'achever l'écriture d'un opéra qui est donné en ce moment, Kamchatka. C'est un opéra chambriste sur une période assez sombre de l'Argentine. Vous avez appelé ça fable politique.
Et cet opéra est raconté par un enfant. Bon, déjà, c'est une première curiosité, mais c'est un premier point qui m'a beaucoup touché, parce que cet enfant raconte la dictature en Argentine à l'âge que j'avais exactement, et en mars 76. Donc moi j'avais 9 ans, le personnage a 9 ans. Et il s'appelle Harry. Et ce jeune Harry est le fils aîné d'un couple ordinaire. D'ailleurs, ils le disent comme ça. La mère dit on est d'une famille ordinaire et qui est juste sensible, qui a juste qui a fait des choix politiques, qui a fait des choix sociaux. Et elle est scientifique, lui il est avocat, il défend des gens qui sont en difficulté et qui sont persécutés par le pouvoir en place. Et il commence effectivement à voir des gens dans leur entourage qui disparaissent. Et donc il y a une menace évidente qui fait qu'ils quittent tout ce qu'ils sont, ils quittent leur maison, ils quittent l'école. La mère va chercher Harry à l'école. Et d'ailleurs Harry est un nom d'emprunt. Parce qu'il se terre, il se cache dans une maison, quelque part dans la banlieue de Buenos Aires. Et la première chose qu'on fait, le père lui dit, on va jouer un jeu, on va changer nos identités. On va plus s'appeler qui on est, tu t'appelleras maman une telle, moi je m'appellerai un tel autre, et j'exerce un tel métier. Ils changent des identités, ils perdent vraiment ce qu'ils ont de plus fort. Et lui, il choisit lui-même son prénom, il choisit de s'appeler Harry comme Houdini, l'homme qui s'échappe. L'homme qui échappe de toutes les situations, qui s'échappe de cette situation impossible, et de laquelle lui, il va survivre, mais pas ses parents. Et ses parents, ils finissent par alourdir les listes de milliers de disparus de la dictature en Argentine.
Comment est né ce projet ?
Et alors ce projet est né m'a été proposé en fait, m'a été tout simplement proposé par Ezequiel Spuches et Silvina Sen, qui Silvina travaillait avec Ezequiel au sein de l'ensemble Alma Viva, et Ezequiel Spuches est le pianiste et le directeur musical spécifiquement de Kamchatka, et ils ont proposé à Marcelo Figueras, il faut le dire, et l'écrivain qui a écrit le livret de Kamchatka, et dont il faut que je dise aussi que Kamchatka est d'abord un film qui a eu beaucoup de succès en Argentine dans les années 90, Et Marcello a fait par la suite un roman qui a été traduit par traduit dans plusieurs langues et qui a été un vrai succès local. Enfin, mais tout le monde en Argentine connaît Kamchatka. Est une sorte, c'était un peu l'histoire, le film après qui racontait la dictature à partir le regard et le vécu d'un enfant. Et c'est un film qui avait beaucoup ému l'Argentine et donc je connaissais, j'avais vu ce film il y a quelques années, et donc quand on m'a proposé de faire l'opéra sur Kamchatka à partir d'un livret original, parce qu'il s'agit vraiment d'une écriture d'un livret pour faire un opéra. Il ne s'agit pas d'une adaptation, mais Marcelo Figueras a réécrit vraiment et l'histoire, et d'ailleurs qui comporte beaucoup de différences par rapport, évidemment, par rapport au film et par rapport au roman. Et très naturellement, je me suis senti évidemment impliqué et presque un besoin, une envie aussi de raconter cette histoire de mon pays, et cette histoire qui aurait pu être sans aucune difficulté et la mienne. Mais surtout, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, et c'est écrit en exergue du livret, et Figueras écrit « Ceci a eu lieu en mars à Buenos Aires ou ailleurs dans le monde ». C'est-à-dire, cette histoire, elle peut se passer, il s'est passé en Argentine, mais elle s'est décline en permanence. Elle s'est déclinée dans la guerre des Balkans, elle se décline aujourd'hui en Syrie ou en Irak, elle se décline avec les boat people en Méditerranée, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est l'actualité de cette histoire de persécution, c'est l'actualité de cette histoire d'oppression qui est réelle. Et qui mérite d'être rappelé, tout simplement.
Thank you.
Alors vous enseignez et avez enseigné dans différentes structures. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans cet acte d'enseigner, de transmettre à des générations plus jeunes ? C'est de la composition.
Oui, ben, j'ai enseigné au Conservatoire de Reims pendant quelques années, jusqu'à il y a un an, où j'enseigne maintenant au Conservatoire de Strasbourg. J'ai la chance d'enseigner la composition. Et c'est une mise à jour permanente, l'enseignement. C'est une mise à jour permanente. Moi, je suis abreuvé en permanence d'énergie, d'idées, de ressources, de sources, et des partitions que j'aurais jamais... lu, si ce n'est parce qu'un étudiant m'amène une telle partition, un tel bouquin, une telle question aussi, un tel questionnement, qu'il faut creuser avec lui, qu'il faut rechercher, ou qu'il faut travailler avec lui. Donc, pour moi, enseigner, c'est vraiment un régal. Et je le dis en toute franchise. Voilà, ça signifie ça. Je ne peux pas dire plus, franchement.
Vous avez fondé l'ensemble 21. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer un tel ensemble et quelle est sa philosophie ?
Cet ensemble, il est fini. Hein. Il n'existe plus depuis quelques années. Mais ça a été une aventure qu'on avait. À une époque, j'ai vécu à Dijon. Et effectivement, on avait créé cette structure pour diffuser dans un territoire où il y avait très peu de diffusion en musique contemporaine et diffuser le répertoire contemporain avec des musiciens locaux. Il y a toujours des très très bons musiciens en Bourgogne. Et donc on avait développé une vraie activité de diffusion et de commande aux compositeurs, de création des nouvelles œuvres. Et initiative qui a persisté, on a pu se développer pendant plusieurs années et malheureusement on a été emporté par les prolégomènes de la crise de ces quelques dernières années.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne. France Musique.
Sounding. Freezing voice. To make it still responding.
Parlez-nous un peu de vos projets.
Alors, projet actuel, j'écris et actuellement une pièce encore pour la voix et pour mezzo-soprano et harpe. Et une chanteuse magnifique qui est Isabelle Sokoja. Et une harpiste aussi magnifique, évidemment, qui s'appelle Elodie Rebaud. Et une pièce pour ces deux musiciennes et électronique, qui m'a été commandée par le GRM, qui sera créée ici à la radio, dans le festival Multiphonie. Et un concert sur la musique mixte. Et je clôt un cycle, et cette pièce clôt un cycle qui est le cycle des lèvres, et qui est un cycle des pièces mixtes pour voix, flûte, harpe, alto, et toujours électronique. Pour ce duo, j'ai travaillé sur des textes, sur les lettres échangé entre Virginia Woolf et Vita Sackville-West, qui était aussi une écrivaine qui, à l'époque, était plus réputée que Virginia Woolf. Des lettres qu'elles sont échangées lors de leur rapport amoureux et des petits extraits des échantillons d'amour comme ça, qui structure la pièce, en fait. Et donc, je compose, après ce duo pour mezzo harpe électronique, je travaillerai sur un quatuor à cordes qui m'a été commandé par le festival Ars Musica de Bruxelles pour un quatuor qui sont maintenant des amis, qui est le quatuor Tana, et des franco-belges, ou plutôt des français installés en Belgique, et pour qui j'avais déjà composé mon deuxième quatuor à cordes et avec qui on avait eu également une expérience de travail magnifique.
Merci beaucoup, en tout cas, Daniel Adamo, d'être venu nous rendre visite dans ce tapage nocturne.
Merci infiniment.
Et à bientôt.
À très bientôt.
Against and go, 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 go
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était ce soir Jean-Louis Deloncle, Mathieu Leroux et Sandra Dlaizamba. Attaché d'émission Soizic Noël, chargé de réalisation Bruno Rioux-Maillard. Il est temps de rejoindre maintenant les Ailes abrévées d'Anne Montaron.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.